Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode de Game Lovers, le podcast corse des amoureux de jeux vidéo. Alors dans la première partie, on avait parlé de nos premiers baisers, de notre arrivée dans le monde des jeux vidéo, à travers surtout nos souvenirs de consoles et de premières grosses machines. Dans cette deuxième partie d'épisode, on va s'intéresser davantage aux jeux. On reprend donc ce premier épisode, là où on l'avait laissé la dernière fois. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et puis, franchement, moi, j'aimerais revenir là-dessus, parce que, alors, peut-être que j'ai envie de m'y arrêter, parce que ce sont mes premiers souvenirs à moi, mais pour moi, ils correspondent vraiment à une époque où, dans la cour de récré, on se raconte, et on se raconte beaucoup, ce qu'on a vécu sur le jeu, pour ceux qui font les mêmes jeux que nous, et parfois même, comment dire, Internet n'existe pas. Les magazines spécialisés parlent des jeux, mais c'est encore un marché de niche, le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'y intéresser, avoir l'envie d'acheter le magazine, avoir envie de creuser le sujet. Et pas tout le monde n'est mordu comme ça de gaming, et pas tout le monde n'y a accès. Donc quand on est dans la cour de récréation, on joue pas tous au même jeu. Et parfois même, chose peut-être inimaginable aujourd'hui, on se les prête.
Ouais, moi je vais te dire.
On se les prête, on en parle, on se
Final conseille. Fantasy VII, je l'ai eu pendant un an et demi sans y jouer. Parce qu'au fait, suite à un Noël, j'ai un de mes frères qui à l'époque fait un beau Noël. J'ai une dizaine de jeux de PlayStation. Tu vois, à l'époque, c'était une blinde, c'était mis dedans. Tu vois. Et j'ai ce truc, il me paraît austère, ça me parle pas, ce monde me parle pas. Le personnage ne parle pas sur le truc. Il y a 3 CD. Oh, qu'est-ce que c'est, cette pure? Et c'est une rencontre avec un ami d'Île Rousse, Nicolas Colacciol. On se retrouve sur les bancs du lycée ensemble. Il dit, ah ouais, mais moi, on ne parle pas de jeux vidéo. Il y en a qu'un qui existe, c'est Final Fantasy VII. Et là, il m'explique ce que c'est, parce qu'en fait, je n'avais jamais été gratté, tu vois.
Je ne sais pas qui est ce gars-là, je veux bien le rencontrer.
Et là, du coup, le soir, je dis, allez, je ne vais pas mourir débile. Je lance pour la première fois. Le début de la fin.
John, un petit mot sur FF7 ou pas?
Ben, FF7...
Parce que pour moi, c'est le jeu d'une génération. C'est vraiment, s'il y en a un, tu vois.
Oui, mais on a tous une histoire particulière sur un jeu pour X exemples qu'on peut citer. Ça serait trop long. Il faut savoir que, en ce qui me concerne, je prends la PlayStation après la Mega Drive. Ou après la Super Nintendo, je suis encore sur un jeu classique. Et comme tu le disais, avec les magazines de jeux vidéo, il y en avait tant et plus, on avait quelques images à se gratter, et c'est tout. Et le Final Fantasy VII, il faut savoir qu'ils avaient une publicité télé. Ça passait dans les spots
mensongères. Hein. Tu ne montrais que les cinématiques du jeu.
Je disais, qu'est-ce que c'est ce jeu? Oui, mais... Sur l'entame du, quand tu mettais le CD, moi c'était mon premier jeu de rôle. Je ne jouais pas aux jeux de rôle, mis à part les Donjons et Dragons
plateau.
Donc je mets le jeu, la cinématique se lance, mais il faut se rappeler que la cinématique après, c'est le jeu.
L'entrée du train en gare de Midgard. Les frères Lumière, c'est l'entrée du train en gare de La Ciotat. Moi, c'est l'entrée du train en gare de Midgard.
On est sur un jeu qui est totalement maîtrisé pour l'époque, avec une bande-son, un orchestre symphonique.
Et puis, il n'y a pas de transition, quoi. Tu mets le jeu, la cinématique démarre, et tu t'aperçois même pas que la cinématique est finie. Ça y est, c'est à toi. Donc, c'est ce qu'on appelle une entrée immédiatesse. Il y a peu de jeux qui font ça encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es lâché dans l'action, on ne t'a pas expliqué qu'est-ce que tu fais là, d'où tu viens, qu'est-ce que c'est que cet univers. Ah oui, voilà, tu es au beau milieu d'une mission et en avant garçon, c'est faut y aller. Quoi. Et rien que ça, c'est une proposition extraordinaire. Et puis forcément,
le scénario sort du jeu classique.
Ah, pour moi,
il a une princesse.
Pour moi, il a une avance.
Là, c'est.
Non, mais voilà,
ça fait un volant écologique.
Il faut sauver
la. Il peut être actualisé,
c'est ça, quoi.
Terroriste écologique. Hein,
là. Alors, on reparlera du remake parce que ça fait partie de la vaste vague.
Fumisterie.
Non, pourquoi Fumisterie? Moi, je l'ai espéré 20 ans, tu vois, je cracherai pas dessus, je l'ai fait, je l'ai adoré, mais non, la tendance à faire des remakes à tout bout de champ, tu vois, lui au moins, il assume ça, il le fait bien, mais si tu. comment dire, si on a fait un remake de Final Fantasy VII en 2020, c'est parce que, en fait, au moment où il sort en 97, il est visionnaire et nous, on s'en rend pas compte du tout, tu vois. Le propos écologiste, c'est t'incarnes un terroriste qui fait sauter des réacteurs nucléaires parce qu'il pompe l'énergie vitale de la planète. Je veux dire,
voilà, c'est quand même pas mal.
Non, mais tu vois, ce que je veux dire, voir ça, je te dis pas qu'il l'anticipe en 97, quand ils, enfin, ou en 96, puisqu'ils font le jeu avant, mais est-ce qu'ils anticipent? Est-ce que vraiment, eux, ils ont la volonté de faire le parallèle avec ce qui est en train de nous arriver? Peut-être pas, juste ils s'en inspirent, tu vois. Mais il y a un propos sur l'écologie, il y a un propos très fort aussi sur la dépression, parce qu'on joue un personnage qui est plus ou moins dépressif, qui a un dédoublement de la personnalité. On perd un personnage de façon définitive.
La Shinra, qui est un grand groupe.
Voilà, un conglomérat, une multinationale.
On change les noms, on y est, là.
Quand Elon Musk.
Quand Elon Musk rachète Twitter.
Pour 40 milliards, tandis qu'il est gratos sur l'Apple Store.
Ou que Xi Jinping et tous les géants chinois confinent leur population, je veux dire, bon.
Alors, ce qui est dommage sur le remake, c'est le fait de le fractionner. Alors, je veux bien qu'on fasse une expérience plus enrichissante, mais le fractionner, on ne sait toujours pas en combien. Hein. Il est sorti le remake, mais la phase 1, c'est-à-dire l'intérieur de Midgard, qui est le nom de la cité que propose l'univers du jeu. La partie extérieure, on ne sait pas si ça va être un épisode, et puis un autre épisode. Alors, selon les rumeurs, ça serait en 3 disques. Je trouve que pour un remake...
L'original était en 3, après tout.
Sauf que l'original, c'était 70€.
Oui, mais le temps de développement n'est pas le même.
Là, tu le payes 210.
Ouais, mais nos exigences aussi, elles ont évolué. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à avoir le degré de qualité attendu en 2020 et dans le même temps, attendre exactement la même expérience qu'on avait en 97 qui était faite... Pas avec des bouts de ficelle, mais avec des polygones, avec des couleurs.
Le support actuel le propose. On a un Blu-ray qui est capable d'assumer.
T'imagines la taille. Enfin, il faudrait des Blu-ray de
deux Blu-ray.
Deux ou trois Blu-ray. Mais déjà, ouais. Le premier était sur deux, hein, puisqu'il y a un disque de données et un disque de.
Oui, il y avait double téléchargement.
T'imagines, il faudrait six Blu-ray. Donc, non, mais je pense que c'est le temps de programmation, le temps de développement qui est énorme pour faire un truc de cette ambition-là, quoi. Non, mais ouais, Final Fantasy. Moi, il faudrait passer à d'autres que celui-ci parce que sinon je
ah ben oui, ben
passe
c'est
passe la nuit.
Alors que le plus grand Final Fantasy, enfin de la vie d'experts, ah c'est si le 6.
Si je l'aime beaucoup en plus, mais
parce que il y a cette claque technologique. Mais sur, je l'ai pas fait le 6. J'ai fait le 4.
Et moi j'ai fait.
Mais il paraît très que le 6 propose un scénario qui est
Il est très bien, mais il est plus choral en fait. Il y a vraiment il y a 12 ou 14 personnages jouables, je sais plus, mais il est plus choral. Il y a 2-3 personnages qui ont une petite aventure ensemble, et puis après on passe à d'autres personnages qui eux-mêmes me suivent un autre chemin, et puis tout ce beau monde finit par se rencontrer d'autres personnages. Donc il y a pas vraiment de personnage principal, c'est souvent aussi un point fort qu'on lui attribue, mais je l'ai fait plus tard, et bon, et souvent. C'est comme les jeux From Software, ça. Souvent, le meilleur, c'est le premier auquel on a joué. Donc,
c'est un petit peu la mode, parce que les jeux chorales, parce que moi, je vois sur Heavy Rain, oh, c'est une enquête policière. Là, tu joues 5-6 personnages. Tu as Until Dawn qui, moi, j'ai pas mal aimé, même si je trouve que pour. Là, encore une fois, je vais être un peu violent. C'est-à-dire que tu avais des jeux, puisque finalement, en termes de pouvoir d'achat et tout, ils n'ont pas trop bougé, mais allez, peut-être que c'était quand même 500 francs pour un jeu, c'était énorme hein, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on dit 70-80€ pour un jeu, mais je ne sais pas si on se rend compte à l'époque, les parents déboursaient 500 francs pour une cartouche ou pour un CD, c'était beaucoup. Hein. Le jeu, il avait une vie, Final Fantasy VII, et quoi, tu pouvais tenir 120 heures dessus, large.
En 1990, enfin dans les années 97-2000, on va dire, sans internet, oui, tu peux tenir ce temps-là. Aujourd'hui tu boucles ça. Mais plus vite parce
le problème, c'est que
tu as accès aux solutions.
Moi, je te prends Until Dawn, il est super. Tu as plein de personnages, le scénario est pas trop dégoûtant. Voilà, il prend un parti pris. Voilà, c'était dans un film d'horreur, tu joues le personnage et tout. Mais, tu le finis en 8 heures.
C'est une offre en fait que moi je suis pas sensible à ça, parce que pour moi la force du média c'est l'interaction. C'est-à-dire que t'es joueur parce que t'as un truc en main et t'as plus ou moins le contrôle sur ce qui se passe. Là en fait on t'enlève les contrôles. C'est-à-dire que t'es plus que dans ton canapé à prendre des décisions, mais en fait le gameplay il est réduit.
C'est dirigiste comme gameplay.
Ouais, c'est,
et,
c'est...
Ouais, ouais. Ils avaient c'est, mis ça. Alors, qui
c'est portion bien. Congrue quoi. Tu déplaces et en fait tu choisis. Oui. C'est un jeu de choix et d'embranchement. Ben, alors,
je pense qu'on est arrivé au bout du de ce qui était à l'époque quelque chose de révolutionnaire dans le gameplay. Je pense qu'on est arrivé à terme de cette proposition là. Le premier jeu, alors. Vous pouvez me corriger si je me trompe, c'était Shenmue qui proposait le QTE. Le QTE, Quick Time Event. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des icônes qui apparaissent à l'écran qui ressemblent au bouton de la manette et il fallait appuyer au bon moment pour faire l'action. Donc, et on avait trouvé ça génial pour l'époque, ça ne l'est plus maintenant.
C'était prendre quelques. En fait, les jeux de rythme faisaient ça. Mais les jeux de rythme, les jeux de danse, les jeux de coordination.
Qui avaient pris la suite ou qui avaient fait avant.
Et en fait, on est allé prendre cette mécanique de gameplay là, le fait d'appuyer de façon synchronisée sur un bouton.
Parapaz the Rapper.
Parapaz, c'était génial, Parapaz.
Mais je pense que on est au bout d'un. Là, on parlait de jeux monde ouvert.
Oui, parce qu'en fait, on demande du réflexe, mais en fait, comment dire. C'est comme si notre personnage faisait l'action de lui-même, en fait. Et où on réussit ou on réussit pas. Et ça a quelque chose de frustrant. C'est pas nous qui déplaçons le personnage. Non, c'est pas nous qui le faisons agir.
Le fait de baisser la difficulté pour rendre le jeu accessible à tous, c'est bien, hein, je conçois. Mais on facilite trop le média à juste une simple expérience vidéoludique, comme si c'était presque un film.
Mais ça, je pense que c'est aussi dû au fait de la... Parce qu'ils sont très beaux, hein. Ils sont magnifiques, les univers sont magnifiques. Et Viren, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que tu te prends dans le truc. Tu te prends dans le truc, mais en fait, effectivement, tu as l'impression de regarder un film et de ne prendre les décisions que quand il faut les prendre. Alors, des fois, c'est même un peu schizophrénique, puisqu'en fait, tu es obligé de réfléchir un petit peu à ton fil, qui est qui fait quoi. Et à un moment... pim, on te demande, allez, maintenant, en 4 secondes, il faut que tu appuies sur 8 boutons. Ah, j'étais en train de réfléchir à savoir qui avait tué la gosse, tu vois, potentiellement tué la gosse. Donc, c'est assez schizophrénique. Mais je pense qu'il y a aussi l'arrivée de la VR qui...
Non, mais attention, il y a un marché pour tout ce genre de jeu.
Emmène les gens vers des produits très beaux, mais finalement, peut-être que la VR, tu auras... L'expérience va faire que tu pourras peut-être pas faire autant de choses que... C'est ça pour ça que c'est programmé, sûrement pour la VR.
Non, mais à trop vouloir d'immersion, en fait, moi, je pense qu'on a perdu de vue un peu. Alors, c'est pas grave, c'est une proposition. Moi, j'y suis pas sensible. Chacun y trouve son compte. C'est aussi pour ça que je pense que le jeu vidéo est en train de devenir, enfin, ouais, peut-être est déjà devenu un marché de plus en plus intéressant parce qu'il est de plus en plus riche. Il s'adresse à des enfants, il peut s'adresser à nous, il peut s'adresser à nous en fonction de nos préférences. Mais voilà, pour moi, Heavy Rain, Detroit, c'était quoi, Beyond Two Souls aussi, enfin tous les jeux de Quantic Dream, les jeux d'enquête, ultra scénarisés, m'enlèvent une partie de tout ce que j'adore, moi. C'est ressentir des trucs, la manette à la main, et me dire la frontière entre moi et le personnage, elle finit par s'effacer grâce à la manette. Je suis le personnage ou le personnage est moi, quoi. C'est un peu ce que propose le média au début. Quand on l'enlève et quand on n'a plus l'impression que de voir un personnage agir et qu'on joue un peu à Dieu en lui faisant, en lui donnant des, comme si la manette était traitée comme une télécommande, déjà ça m'intéresse beaucoup moins, quoi.
Les gros jeux qui sont actuellement proposés, ce sont des blockbusters donc de plusieurs millions d'euros, avec pour boucler le jeu entre 5 et 10 heures, selon l'expérience que l'on veut bien y accorder. Alors, on est très loin de ce que l'on disait sur les jeux d'arcade, hein, puisqu'on revenait sans arrêt sur la même chose. Et en fait, on jouait de manière beaucoup plus longue et on s'améliorait si on pouvait y arriver. Mais il y avait moins de lassitude qu'un jeu terminé sur une tranche de 5 heures. Parce que quand on finit le jeu, franchement, à part débloquer... quelques trophées.
Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de jeux qui proposent une vraie rejouabilité, qui proposent une expérience. Non, parce que ça peut être bien d'avoir une vraie belle expérience en 5-10 heures. Et derrière, de se dire, OK, j'ai quand même envie de le relancer parce que j'ai raté des choses. Il y a des choses que je peux faire en plus.
Non, à la limite.
Ça peut être bien une expérience concentrée en se disant, il y a des choses cachées de ci, de là, et en fait, on peut continuer encore à aller explorer tout ça. Mais effectivement, aujourd'hui, ils ne le font plus. Il y a de plus en plus...
Si, tu as eu Last of Us qui t'offrait un nouveau tableau d'une heure et demie. Si tu avais terminé le jeu dans le 1, rappelle-toi, dans le 1...
Ah non, le DLC est payant. Non, c'est l'extension qui est payante.
Non, si tu terminais le jeu, tu avais accès à la DLC.
Alors, PS3, je ne sais pas.
Sur le 1, il est sorti sur PS3. C'est possible, puisque maintenant...
Je crois qu'il était payant, non, le DLC avec...
Il y a des DLC gratuits, il y a des DLC payants.
Alors, je sais plus. Bon, DLC, en gros, c'est l'extension qui sort en morceaux après... Enfin, bref,
je me rappelle, le Resident Evil qui était sorti donc avec la PlayStation 1, quand tu finissais le jeu, tu le relançais parce que tu débloquais une tenue, mais tu débloquais des armes. Donc, tu améliorais Oui, tout à fait. Il fallait D, C, B, A et S. Donc, qui donnait le rang maximal. Mais tu pouvais le relancer puisque tu débloquais quelque chose de...
On gardait son équipement d'une partie sur l'autre, c'est ça?
On débloquait un nouvel équipement.
Okay.
Donc, cet mécanisme de jeu-là, certains autres éditeurs l'ont proposé. Et pourquoi pas, si le jeu était bien, on se lançait sur une deuxième aventure. Et maintenant... ces jeux-là ne le proposent plus, ou alors par transfert payant qui débloque une map ou une narration en parallèle de l'histoire principale. Vous voyez, tout ça, je trouve que c'est un peu dommage.
C'était ça, ben non, j'ai pas le. Ah, mais si!
Tu jouais dans le supermarché, la petite.
Oui, pique. Avec la petite. Ah, ben oui, ben c'est un DLC, je crois, non? Left Behind.
Uncharted.
Left Behind.
C'est un jeu qui est... tout le monde le note super bien, ce jeu, mais il est bien en tout point. Sauf que...
Ouais, mais c'est le Indiana Jones des jeux vidéo, quoi. C'est... Ou le Marvel, quoi. Mais techniquement, c'est de la folie.
Mais
hein,
je suis d'accord. Mais un jeu qui... Moi, je l'ai fini en 5 heures le premier. J'ai joué au 4, puisque le 2, 3, je ne l'ai pas fait. Et aucun plaisir. Je ne trouve pas de plaisir dans ce jeu-là. On meurt... On revient sur presque à l'endroit où on a, à force, on y arrive. Donc, c'est de la répétition pour dire, tiens, on a passé un cap, il y a une cinématique, une narration, hop, un combat.
Oui, la cinématique et la narration, en fait, sont traitées comme une récompense. C'est-à-dire que, enfin, comme une récompense, encore, parce que le défi n'est pas excessivement élevé. On vous fait progresser jusqu'au point où on va avoir une séquence ultra spectaculaire qui va être très rythmée. Comme dans un Indiana Jones, comme dans un Marvel, comme dans un film de super-héros. Et je pense que le média est en train doucement mais sûrement de glisser vers ça. Et heureusement, il y a des acteurs qui prennent un peu le contre-pied. Il y a des joueurs qui sont un peu agacés.
Tu as le monde ouvert.
Il y a des façons de le penser.
Il y a des petits jeux comme The Forest qui vaut vraiment le coup. Je ne sais pas si vous l'avez fait.
Ah oui, mais il y a du monde ouvert qui est très bien et qui est très moyen. À l'inverse, un Metroid qui est sur un jeu vraiment à l'ancienne, le dernier qui est sorti sur la Nintendo Switch.
C'est quoi, Dread? Non.
Metroid. Oui.
Dread. Metroid, ouais. Dread.
C'est vraiment un jeu presque à l'ancienne. Évidemment, c'est de la fausse 3D puisque on est sur de la 2D sur l'animation et on est sur
décors,
du paysage sur de la 3D. C'est très joli et franchement sur un quelque chose qui ça, il y a du rythme. Il est difficile et ça apporte vraiment une expérience qui reste à l'ancienne, mais avec qui est assez moderne dans la présentation.
Il y a The Forest où tu es sur un monde ouvert où en fait tu as un crash, donc en fait tu t'aperçois que tu as ton gosse qui est pris par une tribu, tu vois, et l'objectif c'est de récupérer le gosse. Alors tu peux faire le jeu en une heure.
Chope la bombe.
Tu peux faire le jeu en une heure. Hein. T'as une île, tu arrives, t'as rien. Si tu trouves juste une boîte de soins dans les débris.
Ça dit quelque chose.
Et alors tu peux faire le jeu en une heure. Hein. C'est-à-dire en furtif, si t'es vraiment bon, tu traces, tu es à chercher, t'essaies de partir. Ou sinon tu peux te dire, je vais me faire mon Koh-Lanta à moi. Je vais couper des arbres, je vais me faire ma cabane, je vais me truc et je vais découvrir. Pas mal de trucs. Et voilà, ce jeu-là peut avoir une vie un peu plus large.
Mais il y a de plus en plus de jeux qui prennent justement le contre-pied de ça, justement, de ces expériences qui sont de plus en plus calibrées. En fait, moi c'est ça qui me manque par rapport aux jeux dont on a beaucoup parlé, là, de nos premières découvertes. Ces jeux qui t'expliquent rien. Alors, c'est pas forcément toujours une bonne chose, hein, mais N'empêche que mes premiers souvenirs à moi, peut-être les vôtres aussi, quand j'allume ma console, j'ai personne qui me prend par la main pour m'expliquer ce qui va se passer. C'est, je suis balancé.
Il y a un tutoriel de mise en route sur le jeu.
Oui, mais il n'y en a pas eu, il n'y en a pas toujours eu.
Non, il y avait un petit carnet à l'intérieur.
Voilà, c'était l'époque où il y avait des livres qui étaient bien faits, qui te donnaient à la limite les commandes des boutons et tout ça.
C'était super,
C'était génial. Mais et puis surtout, ça. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça nous prenait au sérieux, nous les joueurs. C'est-à-dire que, on vous propose quelque chose et charge à vous de vous donner du mal si, pour peu que ça vous intéresse, allez-y. Creusez, vous êtes intelligent, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Oui, aujourd'hui, c'est ultra calibré. Ultra,
même dans des jeux simples comme FIFA, tu arrives dans FIFA où tu peux même avoir l'aide de l'entraîneur, c'est-à-dire c'est tellement bidon, il va t'envoyer une flèche pour te montrer quel joueur est démarqué. Enfin,
je veux dire, 20 minutes de tutoriel.
On arrive au stade vraiment où on prend le joueur pour un débile mental. Alors peut-être qu'on l'est devenu, vraiment,
c'est non, dur. Mais je crois pas ça. Non, mais attends, ça peut être bien pour faire venir des gens aux médias qui viendraient pas forcément. Ok, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Si tu veux attraper, si tu veux t'adresser à un public plus ample, après tout, pourquoi pas. Mais cela dit, il y a quand même une frange de joueurs qui jouent depuis des années, certains depuis des dizaines d'années, qui ont pas besoin qu'à chaque fois on leur explique. Alors voilà, là, c'est, tu vois, tu as une arme qui est de longue portée, elle peut être utile dans certaines circonstances, avec un personnage, maintenant on fait des personnages, qui, tu vois, je viens de faire Forbidden West, John l'a fait aussi, je veux dire, le personnage commente sa propre action au moment où il l'a fait, c'est-à-dire qu'il s'approche d'une échelle, je devrais peut-être monter par cette échelle, ou alors qu'il te dit, je ne suis pas encore assez fort ou forte pour faire ceci ou cela, tu vois, à un moment donné, c'est bon, ne nous prenez pas pour des...
A contrario, moi je vis, j'ai 3 gosses, je me retrouve des fois... un jeu qui me plaît bien, parce que je vais essayer de le faire. Et je me retrouve devant un problème technique, c'est-à-dire que entre le pad, le R3, les boutons, R1, R2, L1, L2, Select, le pavé, le pavé du milieu et tout.
Le combo L1 plus...
j'y joue une heure, je le prends en main. Ok, c'est bien. Si je passe 4 jours... parce que la vie fait que je n'ai pas tout le temps que j'avais quand j'étais adolescent.
T'as oublié les contrôles et tu y reviens plus jamais.
C'est infernal.
Ouais. Sauf que si c'est bien fait, t'oublies pas.
Et en fait, pour pas oublier, il faut jouer régulièrement sur le même jeu et pas changer entre temps parce qu'on peut se mélanger les pinceaux.
Ça aussi, ça a été quand même vachement. Parce que maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a quand même des contrôles qui se sont standardisés, modernisés.
Voilà. Donc,
joystick gauche, déplacement,
on reste à peu près pareil.
Droit, caméra.
Il y a certains jeux, les mécanismes sont pas les
mêmes.
Main
gauche, gâchette de gauche, main droite, gâchette de droite.
Bon. On a commencé les consoles à la maison avec 4 boutons. Select, Start, A et B.
A, B et la croix.
Et la croix, il n'y avait pas de paddle multidirectionnel, c'était la croix.
Une croix ou joystick, un AB. Et...
après, à commencer, maintenant, donc c'était 4 boutons, maintenant on est sur 2, 8, le paddle du milieu.
Comptez pas Start, Select et le...
Non, ça, c'est ils sont sortis de leur champ d'action. Mais oui, donc on est sur, 8, 10 boutons, et plus les combos.
Des combinaisons possibles.
Entre... combinaisons que l'on peut faire entre les boutons, en restant appuyé long, pas long. Avant, je jouais à 2-3 jeux différents, il y a longtemps. Je me remettais vite dessus, puis les sauts, c'était toujours le même, et puis l'action, c'était toujours le même. Là, si je change de jeu, je suis gêné pendant un petit moment.
Mais c'est vraiment dû au fait vraiment que j'ai plus autant de temps qu'avant. Et c'est vrai que la complexité fait qu'aujourd'hui, vraiment, si je fais une expérience, je pense que les jeux, il faut qu'il y ait au minimum 2-3 heures devant toi.
Tu vois, sur les contrôles, il y a quand même un effort qui a été fait parce qu'ils ont tendance de plus en plus à se ressembler. Il y a tout un tas de boutons maintenant qui sont associés plus ou moins aux mêmes actions, même si on passe d'un jeu à l'autre. Et puis surtout, il y a des jeux qui n'en font pas trop, tu vois, récemment. J'avais commencé le dernier Metal Gear et Metal Gear 5, il te propose mais un nombre d'actions phénoménales à faire en combinant deux boutons mais de 25 manières possibles, et à la fin effectivement là tu t'y perds et c'est trop, et il y en a qui prennent le contre-pied, tu vois Elden Ring, la plupart des jeux From Software font ça, ils te proposent un univers où on t'explique rien, tu te débrouilles, des contrôles simplifiés presque au maximum, et des contrôles même que tu peux changer si jamais ils ne te conviennent pas. Et ça, c'est vrai que c'est une forme de confort qu'il faut chercher à atteindre, parce que voilà, là, l'expérience, elle devient vraiment intéressante.
Et après, c'est dû au fait aussi que, autant je faisais quoi ? Allez, je faisais peut-être une quinzaine de jeux quand j'avais jusqu'à 20 ans, après c'est descendu à 10 jeux par an de 20 à 30, et puis maintenant, si je suis à 2-3 finis, hein, 2-3 finis, c'est un grand maximum.
Hein. C'est clair que c'est une gymnastique, hein. Il faut s'entretenir un peu. Hein. Bon, messieurs, je vous propose, avant de conclure, je vais égrener comme ça quelques jeux. Vous me dites si vous avez des souvenirs par rapport à ça, des petits coups de cœur, nos petites mentions honorables. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Tomb Raider 1, 2, 3, 4? Moi, c'est le 2, hein, mais... Non, le manoir de Lara Croft.
Lady Croft, voilà.
Lady Croft.
Tomb Raider, oui, le 1. Et puis après, le 2, mais bon. Après, la franchise, c'est un peu perdu au fil des
Ouais, je vais dire jusqu'au 3-4, peut-être, ça tient la route. Hein, et puis après, ça... Mais bon, quand même, une héroïne...
iconique. Lara, quand même, iconique. Voilà, hein. Faut quand même rappeler...
Je pense que c'est la première star du jeu vidéo, hein, Lara Croft.
C'est la première star, et surtout la première femme.
Ah, il y avait Sonic aussi, mais peut-être la première femme star, en tout cas.
La première star femme.
Mais à ce niveau-là, ouais, il y a une période quand même où c'était Solid Snake et Lara Croft. Hein.
Alors attention, parce que je vais quand même dire, est-ce que c'est Tomb Raider qui a fait exploser Tomb Raider, ou Angelina Jolie qui a augmenté le truc?
Non, je dis ça parce que je suis fan d'Angelina Jolie. Non, je pense que la hype, elle est là avant. Mais c'est surtout, Lara Croft porte Tomb Raider, je pense, c'est pas l'inverse. Je pense que c'est même pas tant le style de jeu qui a fait que. Je pense que c'est son icône.
Oui, parce que tu la mettrais dans la
même. C'était des jeux à icône, ouais. C'était des jeux à icône, tu vois. Lara Croft, Crash Bandicoot, Sonic. Il y a des licences comme ça associées à des personnages très forts, quoi. C'est une époque où si t'avais pas le personnage très fort, tu.
Faut savoir que Tomb Raider, c'était le Indiana Jones. Donc on l'a dit. Ouais, mais Indiana Jones est sorti sur PC. Ça a été un flop.
C'était un flop, ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas.
Oui, d'un crossover.
Les jeux façon Indiana Jones recherche de secrets arcaniques et des artefacts et tout, ça marche vachement bien. Tu vois, Uncharted s'inspire de ça, Lara Croft fait ça, Tomb Raider fait ça, il y en a plein qui sont
t'imagines,
sur le créneau de chasseurs de tombes.
Je vais en revenir, il y aurait un crossover. Lara Croft, Uncharted, tu vois.
Ça peut s'imaginer, je crois que les... Attends, non, ils sont pas dans le giron de PlayStation, les deux, puisque Tomb Raider, c'est Square Enix, maintenant.
Tu sais, avec les...
C'est, enfin, Eidos, je crois que c'est
Square Enix. Avec les achats, les englobements...
En ce moment,
on ne peut plus
rien écarter. Quand vu les rachats... Bon, Pokémon. C'est que moi, Pokémon, ou c'est vous
j'étais
aussi
déjà trop vieux. Non.
Un trop vieux.
Non. Non,
pas de Pokémania, pas de Game Boy,
pourtant,
pas de câble Link.
Pourtant, le système Pokémon avec l'évolution,
c'est révolutionnaire.
C'était génial quand même.
Le câble Link, je veux dire, ils ont mis des gamins en lien les uns avec les autres. C'est aussi curieux que ça puisse paraître.
Non, et puis je vois en plus.
Un jour, on racontera l'histoire.
C'est quelque chose qui fonctionne. Parce que moi, je me rappelle quand c'est sorti. Il y avait même l'alerte, attention, il y a des crises d'épilepsie qui peuvent apparaître.
Ah non, mais ça, c'était la pub du dessin animé, ça.
Dessin animé.
C'était une scène d'un des épisodes.
Un des épisodes du dessin animé.
Mais oui, parce qu'en fait, ça passait très vite dans l'épisode. Tu l'as vu, cette scène, ou pas?
Bien sûr, je te parle de ça.
Moi, j'ai survécu, je suis donc pas épileptique.
Il y a 22, 24 ans.
Hein, le Bad Buzz.
C'est en 99, je crois, le premier épisode, ou 98.
Je sais pas, l'animé, je sais pas.
Et au fait, les jeux vidéo, ça fonctionne, puisque j'ai le grand qui a 11 ans. Pourtant, je me dis, c'est peut-être plus de son âge, il va peut-être partir sur des franchises un peu plus badass, tout ça. Non.
Intemporel.
Non, intemporel. Non, véritablement.
Bah, je pense que c'est le caractère collectionniste, en fait.
Il a commencé à 6 ans, il a commencé à 6 ans avec les cartes, il est à 11 ans, il est toujours sur les jeux, tu vois. Et je pensais que ça fait peut-être un peu bébé, tout ça. Ben non.
J'avais 20 ans passé quand j'ai capturé mon premier Mew de façon tout à fait illégale, puisqu'en fait, on ne le savait pas. Mais tu vois, c'est aussi pour ça que parler des vieux jeux, ça nous ramène à ça, les rumeurs. Tu vois. Moi, il y a plein de rumeurs sur Pokémon, alors je ne vais pas toutes les égrener, mais il y en avait plein, comme il y en a eu plein sur Tomb Raider, sur les façons de faire ceci ou cela. Faire revivre Aeris dans FF7, faire se dénuder Lara Croft dans Tomb Raider, faire capturer tel ou tel Pokémon, tu vois. Et en fait, parfois même... tout ça, hein, c'était réalisable, mais ça pouvait l'être qu'avec des bugs qui parfois ont été découverts 20 ans plus tard.
Et moi, j'ai
alors,
même
pour
vu
tous
sur...
les possesseurs de version PC, je le dis, hein, tous les possesseurs de version PC et version Steam, il est possible de sauver Iris. C'est long, c'est fastidieux, c'est un bug, mais c'est possible. On peut avoir Mew sur Game Boy aussi, c'est possible, mais voilà, parfois on le découvrait
alors,
5, 10, 15 ans plus
je
tard.
Je me suis pris au jeu une seule fois à Pokémon, c'est quand c'est sorti, tu pouvais les attraper.
Ah, oh, Pokémon Go. Ah non.
Et où mon fils m'a fait faire le tour de Calvi.
Le cancer du jeu vidéo.
Avec notamment à la croix au-dessus de l'abbaye, là. C'était là où ils stagnaient, hein, maximum. Vers 19h à chaque fois. Miaous.
Tu vois, papa, je... papa, faut que je chope mon cul.
Installé aussi tout de suite.
Faut que je chope mon cul but toqué à la révélate. Tu vois, moi, c'est pour moi la phrase. Il y a des trucs qui fonctionnent pas ensemble, tu vois. Bon, Pokémon. Est-ce que Micro Machine, c'est que moi?
Non, c'est connu, Micro Machine.
Ah, vous avez... Non? Toi, non, François?
Non, parce que j'étais un grand fan des jouets.
Ah ouais?
Trop fan des jouets.
Ah,
j'ai pas
c'était
des...
incroyable. C'était incroyable. Faire des petites courses sur ta table, sur ta table de petit déjeuner.
Quelle console, je suis incapable de dire?
Moi, c'était sur la première PlayStation.
C'était sorti sur la 1?
Ouais. Ouais. Ah, ça fait partie de mes premiers jeux PlayStation avec Hercule et Monopoly, je crois, auquel je n'ai jamais joué. Oh,
très bien, c'est cuisine, salle de bain, chambre.
C'était trop bien. C'était trop bien. Tu jouais avec tes... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des courses de petites voitures. Vraiment, hein, comme les micro-machines, quoi, comme les Hot Wheels.
Mais dans un univers.
Mais dans un univers, bah, forcément, modèle réduit dans la maison, quoi.
J'ai rétréci les gosses.
Voilà, c'était ça. Chérie, j'ai rétréci les gosses. On faisait la course au milieu du salon. Et je me rappelle le multi-tap. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. L'accessoire PlayStation pour brancher 4 manettes. En fait, on le branchait sur un des ports et ça nous offrait la possibilité de brancher 4 manettes en même temps. Et moi, j'ai joué, j'ai fait des parties, parce que les manettes étaient filaires, hein, faut se rappeler. J'ai fait des parties avec mon père, ma sœur, mon frère, ma mère à Micro Machine. Le truc,
qui a connu PlayStation TV? Ah,
non.
Alors, ça n'a pas marché du tout, je crois que c'était...
c'est plus si c'est pour ça qu'on ne connaît pas.
C'était sur la 3 ou la 4. C'était la possibilité de jouer à la PlayStation pour éviter d'embêter madame dans le salon. C'était un boîtier qui captait le Wi-Fi de la PlayStation pour jouer sur un autre. Ouais, sans débrancher la PlayStation.
Ah non, alors j'ai pas connu. Par contre, maintenant, il y a une application qui fait ça, c'est le Remote Play, je crois. PS Remote Play. Si vous avez un autre écran, vous lancez l'application et en fait, vous allumez votre console à distance. Bon, la qualité n'est pas la même.
On peut jouer avec ça sur le téléphone.
Ouais, même avec le téléphone avec une manette, mais bon, c'est pas... C'est pas folle dingo. Les gars sont quand même GoldenEye. GoldenEye. Vous avez bien fait du GoldenEye.
Oui, mais alors, je suis pas trop James Bond, mais le jeu était une révolution.
L'écran splitté à 4. Oui, les mines qu'on détecte.
Un des meilleurs.
La montre.
James Bond.
Ah,
toute console confondue.
Ah,
ouais.
Incroyable.
Alors, c'est un ami.
Surtout pour le multi, en fait, hein, parce que
ouais,
c'est pas tant le solo. Et bon, il y avait des choses à faire dans le solo.
À l'époque, il y avait Doom qui proposait un peu le même style. Exactement.
Duke Nukem. Mais je pense qu'en termes de FPS, c'est-à-dire de jeu de tir à la première personne, les autres font ça mieux que GoldenEye. GoldenEye, ce qui réussit vraiment, c'est le caractère multijoueur qui est complètement. Enfin, je sais pas vous, hein, moi j'en ai fait, hein, J'ai fait des GoldenEye à 4 manettes parce que la Nintendo 64, elle avait ça pour elle. Qu'elle avait une manette complètement stupide, mais on pouvait brancher 4 manettes directement sur la console.
Et je vais te dire, moi ça me rappelle, ça me ramène à la période de fac où il y avait voilà, les deux grandes entités. C'était, alors, tu avais ceux qui jouaient sur ordi à Counter. Donc, tu avais les joueurs de Counter-Strike. Mais tu avais en jeu vidéo, tu avais PlayStation, c'était PES. C'est-à-dire tous les mecs jouaient à PES, ça se prenait à coups de poing à la fac, des soirées, c'est les soirées PES. Et il y avait les soirées où là, les filles pouvaient participer. C'était sur Nintendo 64, c'était Mario Kart.
Elles ne pouvaient pas participer à PES? Non, ça ne les intéressait pas, c'est ça que tu voulais dire.
Ça ne les intéressait
pas. Vous ne les mettiez pas à la porte, rassure-moi.
On ne les invitait pas. mais par contre, quand il y avait des filles et tout, ça passait. Une soirée Nintendo 64, c'est-à-dire même si t'étais pas un gros gamer,
Mario Party, un Mario Kart,
au gré d'une tortue verte ou rouge, tu pouvais t'en tirer.
Mais c'est probablement encore le cas. Enfin, de mon point de vue, Nintendo aussi réussit ça très bien, à faire participer vraiment tout le monde, à pas faire de discrimination sur quel type de gamer est-ce que vous êtes, garçon, fille, jeune, âgé. C'est vraiment, enfin, ils assument ce côté familial à fond, quoi. Et c'est vrai que, enfin, ça a toujours bien marché et ça continue probablement de bien marcher pour ça. Tony Hawk, jamais.
Alors, on connaît la franchise.
Non.
Mais
non. Non. Vous n'étiez pas des skateux.
Ah non, pas du tout.
Mais tu portais pas des Vans.
C'est un bon jeu, non?
Non, non. Alors, tu vois, sur ces trucs-là, moi, c'était des trucs de punk à chien, pour moi. C'était ceux qui portaient des pantacours, des pantacours, des Vans, tu vois, ou des. Jet Set
Radio. Ouais. Ah, Jet Set Radio, c'était cool, Jet Set Radio quand même.
Dreamcast.
Puis il a pas vieilli grâce au cel shading et tout, mais
tout à fait.
Il a vraiment, vraiment pas vieilli.
Cel shading, on rappelle.
Cel shading, ouais, c'est cette animation un peu en dessin animé, façon cartoon, voilà. Dessin animé.
Comme Crazy Taxi.
Comme les Dragon Ball aussi n'ont pas vieilli grâce à ça, quoi. Vous pouvez jouer à un Dragon Ball Budokai 3, là, pour en citer qu'un, quoi, sur PlayStation.
Xenoverse,
mais voilà. Mais ça, Ni no Kuni, récemment, il y en a plein qui font ce parti, qui prennent le parti de faire un jeu en cel shading parce que ça vieillit pas, quoi.
Bah, Dragon Quest, ils avaient pris un peu ce truc-là.
Dragon Quest, c'est les dessinateurs de.
Oui, Dragon Ball, c'est Akira Toriyama.
Voilà. Ouais.
Ouais. Et j'en ai jamais fait aucun. Parce que je suis un Final Fantasy boy.
Ah, c'est vrai que c'était.
Mais non, mais c'est
Final Fantasy,
c'est
la guerre. Soft et Dragon Quest, c'était Enix.
Ouais. D'ailleurs, alors pour ceux qui savent pas, Dragon Quest est beaucoup plus populaire au Japon que Final Fantasy, parce que Final Fantasy, c'est le RPG, c'est-à-dire le jeu de rôle vraiment où on incarne un personnage, une équipe de personnages qui doit faire une grande quête. Dragon Quest, c'est exactement la même chose, sauf que Final Fantasy a pris très vite une autre direction, beaucoup plus internationale, et surtout c'était la vitrine technique de ce que pouvait faire une machine. Ça, la volonté de tous les Final Fantasy, ça a toujours été de proposer un truc qui n'avait probablement jamais été fait, ou en termes de contrôle, ou en termes d'immersion, et souvent en termes de graphisme. Et c'est pour ça que Final Fantasy, c'est plus international. C'est peut-être aussi pour ça que moi je l'ai connu bien avant Dragon Quest, et c'est aussi pour ça
Dragon
que je suis
Quest,
plus attaché.
Aussi personnage très bébé, hein. C'est très dessin animé, hein. Les méchants, avant qu'ils te fassent peur à Dragon Quest, faut se lever, hein.
C'était enfantin, mais ça n'enlevait pas la qualité du jeu. Mais,
Et puis voilà, et puis moi j'associe en plus le graphisme de Toriyama, je l'associais vachement à Dragon Ball.
Oui.
Donc.
Mais il reprenait les mêmes persos. Mais, on revient à ce qu'on disait en début d'émission. Les jeux sortaient d'abord au Japon. Donc. Quand un jeu était internationalisé.
Ouais, c'est celui qui s'exportait auquel
exactement.
On jouait, en fait. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Donc ben voilà, du coup Final Fantasy. Et un jour faudra qu'on parle du 15 parce que malgré tous ses défauts. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ce qu'il a fait. Ensuite. Attendez parce qu'il m'en reste un ou deux comme ça. Motoracer? Pas du tout. Je passe. Tekken.
Je suis pas jeu de combat.
Du jeu de combat aucun.
Le seul jeu de combat.
Mortal Kombat.
Oui, Mortal. Mais on les a fait.
Ah,
quand même. Street Fighter.
Street Fighter 2. Salle d'arcade.
Voilà.
Blanca.
Il y avait deux écoles, hein. Il y avait les Street Fighter et les Tekken.
Ah, moi j'ai bien aimé les deux, mais c'est vrai que.
Après, t'avais aussi.
Tekken beaucoup à la maison, mais.
C'était quoi
Street Fighter meilleur.
Soul Calibur. C'était quoi
Soul Calibur.
C'était Sega.
C'est lié avec Dark Vador et Yoda.
Avec des épées, c'est ça.
Oui, Soul Calibur
avec des épées. C'est-à-dire, quand tu touchais un bras, le type ne pouvait plus bouger le bras. Donc. Non, oui, j'ai joué à tous, mais alors plus à Street Fighter, parce que je suis la génération Street Fighter. Mais,
je suis plus jeu de combat, c'est vrai, cela dit. Hein.
Véritablement, moi, j'ai une petite affection, quand même, pour Mortal Kombat, et c'est... comment ça s'appelle? Ouais, c'est
Fatality.
Ah, les Fatality de Mortal Kombat restent quand même...
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça consiste plus ou moins...
C'est comme
alors, c'est absurde, hein, franchement, c'est absurde. Une fois que la barre de vie d'un adversaire est épuisée, il y a un court laps de temps pendant lequel, en fonction de l'action que vous faites, vous pouvez brutaliser,
faire un combo,
vous acharner, littéralement faire un combo sur la dépouille de votre adversaire, et ça donnait lieu souvent à des trucs complètement
absurdes. Une cinématique
absurde,
complètement folle, alors.
Complètement vrai. Alors, vous savez qu'il y a eu un travail là-dessus qui a été fait. J'ai entendu ça dans un autre podcast, d'ailleurs. Je sais plus dans lequel c'était. Mais bref. Je leur aurais en plus rendu hommage parce que je crois que c'est dans les tauliers dont ils en parlaient. Les mecs bossent vachement ce truc-là de Fatality parce qu'ils ne voudraient pas non plus donner des idées à des cinglés. Donc en fait, il faut que ce soit suffisamment brutal pour que ça ait l'air d'une exécution, mais il ne faut pas non plus que ce soit reproduisible. Et c'est pour ça que ça donne souvent lieu à des scènes complètement d'exécution complètement surréalistes. Et fort heureusement, non reproduisible, parce qu'on n'a pas tous un chapeau coupant à la maison, ou une poule qui crache du feu, ou je sais pas trop quoi d'absurde. Un petit dernier, allez, avec quoi un petit dernier quand même, si je suis obligé. FIFA 98. Pas celui-là, non ?
J'étais déjà ISS. Ah. Alors attention, FIFA 98, oui, parce qu'il y avait le Sporting Club de Bastia. Donc, je pense que je suis, à l'époque au lycée de Balaï, je pense qu'il n'y avait pas meilleur que moi. Je peux l'affirmer, il n'y avait personne qui était plus fort que moi à FIFA. Mais je basculais très souvent quand même, parce que, comment je pourrais dire, le graphisme, parce que l'ambiance me plaisait plus, elle était plus arcade, je basculais quand même plus facilement sur ISS. Mais FIFA, je mets au défi quiconque à l'époque de dire qu'il m'a battu à FIFA.
Ah ouais, moi j'ai été très solide sur PES, mais des années plus tard. Allez, un dernier, one more thing, le GTA. Parce qu'il y a un épisode,
le 3,
on n'a pas parlé, le 3.
J'ai découvert GTA par le 3.
Forcément, le 3.
Je vous fais une... J'ai jamais joué à un GTA.
C'est vrai.
Mais alors, dans un truc comme ça et tout, moi, il y a un jeu, vraiment, c'était Driver.
C'est le concurrent. C'est le concurrent oublié.
Oui. Oublié.
Eh ouais.
Oublié. GTA 3. Rien que la prise en main de Driver. Avoir son permis.
Ah oui, il fallait faire le permis, je me rappelle plus. Moi, j'ai fait 1 et 2.
Dans le parking. C'est-à-dire que.
Non, mais parce qu'en fait, Driver propose la même chose que GTA. Bon, globalement, en fait, GTA, on en reparlera forcément, puisque c'est le pionnier de l'open world comme on le connaît aujourd'hui, du monde ouvert un peu pas bac à sable, mais dans lequel on a un personnage qui peut aller se balader, faire tout un tas de choses un peu au gré de ses envies. C'est GTA 3 qui invente ça, surtout illégal. Hein. Et Driver, en fait, propose exactement la même chose, mais il ne le propose qu'en voiture. Et il manque tout le reste. Et c'est pour ça que probablement il a fini complètement oublié, mais non, mais ouais, ok. Bah, GTA 3. Alors, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Déjà, je vous remercie pour la grande qualité de ces échanges, n'est-ce pas ? On va se laisser sur une petite dernière actualité. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'univers, dans le monde du jeu vidéo qui a accroché votre attention là en ce mois de. En ce début d'année, on va dire, est-ce que pour le printemps, là, quelle fleur du jeu vidéo a fleuri là, dans votre cœur ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors,
c'est une émission de jeu vidéo, mais bon, c'est pas un jeu vidéo, ça va être la série Last of Us.
C'est Elon Musk.
Ouais. Non, ça va être la série Last of Us, où il y a de grandes promesses. J'espère que ça va tenir le coup, parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Un univers qui est sympa, qui retranscrit en série... pourrait permettre d'avoir beaucoup plus d'épaisseur.
Je l'attends beaucoup aussi.
Donc du coup, ce sera pas un jeu vidéo, mais ce sera une série déclinée du jeu vidéo. J'attends énormément.
Et The Witcher, t'as vu The Witcher ou pas du tout ?
Pas du tout.
J'ai jamais joué au jeu.
J'attends énormément du... Alors j'avais fait un Witcher, mais j'avais pas fini. Mais j'attends vraiment énormément. Le jeu m'a beaucoup plu. La promesse, en tout cas, sur ce qui est montré, sur les trucs et tout, a l'air d'être tenu. Donc voilà, ce sera pas un jeu vidéo.
Alors The Last of Us, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est déjà une franchise de jeux vidéo. Deux épisodes sont sortis à ce jour, ils sont plutôt excellents, hein. Je crois qu'on peut le dire, l'un comme l'autre. Hein. Voilà, c'est quand même de sacrées belles expériences de jeux vidéo. Et voilà, on est dans un univers post-apocalyptique. Alors, ce sont pas des zombies, mais ce sont des personnes qui ont été infectées, qui se décomposent par des spores qui existent réellement, qui provoquent ça. C'est chez des fourmis, je crois. Le cordyceps.
Sur des insectes, oui.
Ouais. Qui prennent le contrôle. Bref, les êtres humains ont été comme ça contaminés et il ne reste que quelques survivants, parmi lesquels un père de famille, on peut le dire, et puis une petite fille qui traverse comme ça ce monde apocalyptique main dans la main. Et donc voilà, le jeu vidéo va être. La série de ces deux jeux vidéo va être déclinée en série. Alors apparemment, ça sortira pas pour cette fin d'année, peut-être l'année prochaine. Mais. Mais produit par HBO, il y a un gros casting. Hein. Bella Ramsey et Pedro Pascal.
C'est ça. J'ai un doute par rapport au personnage du jeu vidéo.
De quoi, la fidélité, tu veux dire ?
Ouais.
Après, j'aime bien.
Je sais pas. Moi, j'ai pas de bonnes expériences sur les jeux tirés des films et les films tirés des jeux.
Il y a tout un épisode à faire là-dessus, hein, sur la façon dont les deux se sont inspirés l'un l'autre. Et c'est vrai que parfois, la franchise adaptée en film ne marche pas.
Pourtant, Street Fighter était super bien avec Van Damme.
Ouais. Et Mario, tu l'as vu, Mario? Mario est terrible.
Et Kylie Minogue.
Ça, c'est une catastrophe. Non, mais on fera un épisode. On fera un épisode là-dessus parce qu'il y a trop à en dire.
Street Fighter, c'est juste la parenthèse. Alors, Street Fighter sort en jeu. Ils font une déclinaison en film avec Jean-Claude Van Damme. Le jeu a repris la déclinaison en film pour en refaire un jeu. Vous l'avez vu,
le Street Fighter? Non, jamais.
C'est catastrophe.
Non, mais je ne toucherai jamais à ça. John, one more thing. Une petite actu, petite...
En jeu,
petit
là,
chocolat est... de ce mois d'avril.
En jeu, on est servi là.
Ah, on est servi. Hein.
Voilà. Donc,
très très joli début d'année.
Il y a un petit creux. J'attends évidemment les Final Fantasy le 16.
16. 16.
Voilà. Mais ma grosse attente.
Ah, il y a Forspoken.
Oui, mais là aussi, j'attends de voir puisqu'il a été retardé. Non, moi, c'est la série. Alors, ça n'a rien à voir avec un jeu, mais ça reste dans l'univers. Rêveur, puisque c'est une série Star Wars, la série Obi-Wan, que j'attends. Voilà. Alors, Star Wars, il y a eu beaucoup de jeux qui ont été faits bien et beaucoup de pas bien. Mais voilà, moi, ma plus grosse attente, ça reste.
Ah, le dernier est pas mal. Fallen Order.
Il est perfectible par moment, mais il apporte une narration complémentaire au film.
Et puis surtout, il s'inspire des Souls, hein, quand même. Hein.
Surtout qu'en plus. Depuis le rachat par Disney, tout ce qui est édité, c'est-à-dire que Disney a pris le parti de dire que tout ce qui est, à part les films, tout ce qui a été écrit dans les univers étendus et tout, sont caducs. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on apprend, même dans les jeux vidéo, a été validé par Disney. Donc, en fait, ça nous permet d'en savoir un peu plus sur là où ils veulent en venir et ce qu'on attend comme réponse. Et d'ailleurs, ils sont un peu plus... Alors, pas sur les films, même si Rogue One était pas mal.
Rogue One était bien. Hein.
Sur les séries et sur
Rogue One est le meilleur de la nouvelle série et n'en fait pas partie. Quand même.
Sur les séries et sur les jeux, ils donnent un peu plus que sur les films. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu plus de risques.
Bah, le Mandalorian est bien réussi. Hein,
Boba Fett où au fait tu t'emmerdes.
J'ai pas vu Boba.
Tu t'emmerdes jusqu'au cinquième épisode et puis tu prends une gifle.
Mais pourquoi on fait du bon ils savent le faire, hein, du fan service. Voilà, donc de temps en temps ils nous mettent. Un personnage issu de la trilogie principale pour faire plaisir aux fans. Oui, je pense que.
Ouais, mais est-ce que c'est toujours bienvenu ça, le petit coucou, le petit fan service avec. Parce que déjà, moi, les univers étendus, la MCU, Marvel, Disney, là, ça entre.
Il y a un lien avec l'original.
Ah, ça me fatigue.
Déjà, oui. Gardien de la galaxie, là, ça a été trop fort.
Là, c'est même plus de la chorale, je veux dire. Là, on t'a mis l'orchestre, les spectateurs, je veux dire, il y a tout le monde qui vient faire le clin d'œil. C'est...
Attention, parce que pour la première fois.
C'est frénétique.
Dans je sais plus quel film, Marvel a validé, a prononcé deux fois le personnage de DC Comics.
Ah.
J'ai peur du nouveau PA Sauvage, c'est la première fois dans l'histoire de Marvel, que ce soit dans les livres.
Qui mentionne des personnages.
Ils ont mentionné le Batman. Et ils ont mentionné un autre personnage de DC Comics. C'est la première fois.
Bien, bien, bien. Bon, et ben pour ma part, le petit bonbon, la petite sucrerie, ce sera le rachat d'Activision Blizzard dont il faut parler quoi par Microsoft.
70 milliards.
Microsoft qui a claqué quand même un pognon de dingue, je crois qu'on peut le dire. Pour s'offrir WoW, hein, World of Warcraft, pour s'offrir Call of Duty, pour s'offrir tout un tas de titres, quand même des machines à cash. Et il y a des rachats de studios en ce moment. Alors pour ceux que ça intéresse pas, on comprend que vous passiez à côté, il y a aucun souci avec ça. Mais alors sachez qu'en ce moment, c'est pas de la fusion-acquisition quoi, mais pour ceux qui sont intéressés par la bourse et les grands mouvements de capitaux, alors en ce moment dans le jeu vidéo, il y a quand même du rachat solide et sérieux. C'est à surveiller. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour cette première.
Ben, merci.
De qualité, on l'espère.
Oui, on espère que ça sera.
Et pérenne, hein. On va essayer de.
Il y a tellement de.
On va essayer d'être là dans le
tellement
temps.
Tellement de thèmes à aborder.
C'était un peu décousu peut-être par moment, mais parce que c'est une première, on était dans la passion. Et puis François n'était pas vraiment à ce qu'il faisait. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Il faut ça.
Petite vacherie de dernière minute.
Il faut savoir, moi, sur la première, j'ai souffert. Là, c'était une première. Je pense que ça va donner la possibilité à vous, auditeurs, déjà d'avoir un service en plus, une entité nouvelle. Je rappelle qu'à la rentrée, on va avoir une émission de sport. Je rappelle qu'à la rentrée, on va commenter les matchs du Sporting. Il va y avoir des émissions de droit, des émissions de médecine, médicale. Donc, Game Lovers est précurseur, puisque du coup, on fournit ça un petit peu avant la rentrée.
C'est lourd à porter, précurseur.
Oui, non, mais on pensait étoffer un petit peu plus tard la gamme. Il y a eu tous ces événements aussi hein, qui nous ont pas mal...
Tu parles des présidentielles?
Non, je parle plutôt d'un courrier reçu le 24 décembre.
Je vois.
Mis un coup de poignard dans le dos. Donc, moi, je pense que c'est bien. Ça prend forme. La grille des programmes s'étoffe. Il y a plein de belles choses qui vont arriver. Voilà, il y a eu des présidentielles violentes. Il y a eu plein de choses. L'Ukraine, maintenant. Donc,
au niveau régional, on a une autre lot, d'actualité brûlante, si j'ose dire.
To be continued.
Explosive, to be continued. Bien, bien, bien. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous, ma foi, quand on pourra, parce qu'on avait dit 2 semaines la première fois, ça a été 2 mois. Nous ne promettons plus rien, mais on espère revenir le plus tôt possible. Merci à tous. Bonne journée. À très vite pour le prochain épisode de Game Lovers.